J'aimerais juste que tu pries pour un sujet qui m'est venu pendant que tu parlais, de prier pour un renouveau de la conscience que le culte vécu ensemble est important. Je dis ça parce que avec le corona, vous savez, on s'est habitué à un peu de confort. Hein, on peut regarder le culte en pyjama, on peut faire autre chose pendant ce temps-là, personne ne dit rien, etc. Voilà. Mais et il ne faudrait pas que ça dure, cette situation. Voilà. On avait une pastorale l'autre jour et un des pasteurs qui est sur Paris, qui a 300 membres, il y a 10 personnes qui reviennent. Quoi, voyez. On n'est pas les seuls à vivre ça, tout le monde vit ça. Mais il ne faudrait pas que l'Église s'adapte à une sorte de confort, voyez, qui enlève la présence physique des chrétiens dans un lieu. Et on voit que dans l'Église primitive, hein, les évangéliques, on parle beaucoup de revenir à l'Église primitive. Hein, l'Église primitive se trouvait tous les jours dans le temple pour mettre les choses en commun. Donc une fois par semaine, c'est pas trop, mais c'est important. Je veux dire, spirituellement, oui. Il y a une importance à se retrouver ensemble, que ce soit pour le Seigneur, pour le témoignage. Et je voudrais que tu puisses prier dans ce sens, que pas uniquement notre Église, mais tous les chrétiens en particulier puissent revenir à cette conscience de l'importance d'un culte dans un lieu que Dieu a donné pour être un témoignage vivant de sa présence.
Oui, on le pense d'autant plus que justement nous on a eu l'expérience dimanche dernier d'être tranquillement installés dans notre bungalow camping et de boire notre thé en regardant le culte, et j'ai dit à André, waouh, c'est sympa, c'est super. Donc oui, effectivement, c'est super. Mais c'est attention à ce côté confort qui nous guette tous. Je veux dire, on est tous pareils, hein, c'est bien agréable. Mais on a un peu ri tous les deux là-dessus parce qu'on s'est dit, ouais, nous aussi, ça nous convient vachement bien. Bah oui, on est humain. Hein. Le rassemblement du dimanche, c'est important. Et c'est important pour nous et c'est important pour le Seigneur. Et donc, on va prier. Vous savez que le mouvement général de la société au niveau du monde maintenant, c'est l'individualisme. Alors, tout le monde s'en plaint. Tout le monde s'en plaint. Les gouvernements s'en plaignent. Les maires dans les mairies s'en plaignent. Tout le monde, les entrepreneurs, tout le monde se plaint de l'individualisme. Mais c'est sympa. Hein c'est sympa de s'occuper de soi et de penser à soi, etc. Mais c'est dangereux parce qu'on n'est pas fait pour ça. Vous savez, c'est comme je dis toujours, si vous mettez de la vaisselle dans un lave-linge, les résultats seront pas terribles. Et du linge dans le lave-vaisselle, c'est pas génial non plus. Parce que c'est pas fait pour ça. Et nous, on n'est pas fait pour vivre chacun de son côté. C'est dommage que parfois, on en a bien envie. surtout des gens un petit peu sauvages comme moi, c'est vrai. On est bien parfois quand on est tout seul et là, on n'a pas de conflit. Mais on n'est pas fait pour ça. Et le Seigneur veut rassembler ses enfants. Hein, il le dit d'ailleurs, vous vous rappelez sur Jérusalem. Il pleure sur Jérusalem et dit « Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. » Hein, c'est une image très forte dans une civilisation agricole. Rassembler. Donc Dieu veut nous rassembler parce que c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on se frotte, c'est là qu'il y a des moments pénibles, c'est là qu'il faut se supporter, blabla, vous savez. Mais c'est aussi là qu'est la présence de Dieu. Je crois qu'il y a un verset très clair là-dessus, hein, quand les frères se rassemblent, il leur donne la bénédiction. C'est celui que je cherchais, merci. Psaume 33, Donc c'est important, hein, qu'on se rappelle de ça et qu'on va prier parce que notre confort nous tire naturellement, et on l'a expérimenté dimanche dernier, c'était super. Notre confort va nous tirer naturellement dans l'autre sens. Et tous les pasteurs se plaignent un petit peu en ce moment dans la région, donc on va prier pour que on arrive à résister au confort. Enfin, puisque vous êtes là, c'est pas votre cas, mais on va penser à tous nos frères et sœurs. Seigneur, nous te remercions pour cette capacité qu'on a de faire les choses par vidéo. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est vraiment pratique et vraiment agréable. Et pour tous ceux qui ne sont encore pas convaincus, eh bien, Seigneur, c'est une bonne chose de les protéger de la contamination, etc. Mais Seigneur, nous te prions que petit à petit, chacun puisse rejoindre l'Église, et pas seulement notre Église, mais toutes les églises de notre pays, afin qu'il y ait un nouvel élan aussi et que la communion fraternelle puisse reprendre une force, reprendre un dynamisme. Te prions d'encourager aussi tous les pasteurs, les leaders de louanges qui se trouvent effectivement maintenant devant des salles pratiquement vides. Et Seigneur, vraiment, nous te prions de les encourager. Merci pour tous ceux qui suivent en vidéo. Que Seigneur, tu les bénisses, tu les encourages et que tu leur donnes la sécurité pour revenir dans les églises. Merci Seigneur, parce que tu es là et tu es celui qui nous garde. Et nous nous confions en toi, nous te confions cette Église de France, afin qu'elle puisse reprendre un nouvel élan, malgré tout ce qui s'est passé. Amen.
Voilà, les enfants peuvent descendre. Voilà, et je vais faire une lecture dans le livre des Romains, chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 6. Romains 5, versets 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste ? Quelques-uns, peut-être, auraient le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour vers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avions été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Vous savez que l'Épître aux Romains a été l'objet d'une transformation radicale de Luther, qui, à la lecture de cet épître aux Romains, a saisi la justification par la foi. Ce chapitre 5 commence par ce verset: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça s'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Dieu nous demande en tant que chrétiens de la partager, cette bonne nouvelle. Ceci étant, c'est pas facile ni de la partager, ni de voir des personnes la recevoir comme nous le souhaitons. Je suis très heureux de voir que pendant ce confinement, il y a eu des occasions. Nombreuses ont pris le mercredi pour ces personnes qui ont été touchées, certains qui même demandent le baptême là pour la personne qui a contacté Marilyn. En tout cas, des personnes qui se posent des questions par rapport à la foi, par rapport à la Bible. Alors ce matin, je voudrais parler de l'efficacité de notre témoignage. Comment est-ce que nous pouvons rendre notre témoignage efficace dans un milieu hostile, et hostile au sens de cette post-modernité dont nous a parlé Luc Bussière. D'ailleurs, à la rentrée, je proposerai des assises sur ce qui a été dit pour décider de la manière dont nous transmettons les choses, dont nous transmettons l'Évangile. Et ce matin, c'est un petit peu l'objet de ce message: comment transmettre l'Évangile dans une société post-moderne qui est individualiste, comme l'a rappelé Michel, et une des caractéristiques spécifiques de cette société dans laquelle nous sommes. En effet, certaines façons de faire, de parler, de témoigner, éloignent les gens, alors que d'autres manières peuvent les rapprocher de cet objectif du témoignage et toucher leur cœur. Notre but, hein, et le but de chacun d'entre nous, c'est que les personnes, eh bien, avec les arguments que nous avançons, bien sûr à partir de l'Écriture, puissent les ouvrir à l'Évangile. Et toute la question est là, je voudrais l'évoquer ce matin. C'est en fait un problème de communication, problème de perception de la manière dont nous exprimons. Alors, le gros problème, un des plus gros problèmes que nous avons, c'est d'expliquer le péché. Vous voyez, là, on parle du fait que nous qui étions pécheurs, eh bien, Christ est mort pour nous. Et le problème du péché est très, très particulier. D'un côté, il est central dans l'Évangile, il est central dans la Bible, il est central puisque Jésus est venu pour le péché de l'humanité. Et en même temps, le mot est très connoté et très chargé du sens qui éloigne les gens lorsque nous prononçons ce mot. Donc, j'aimerais insister là-dessus, sur la manière dont nous pourrions faire, mais après le Saint-Esprit va vous conduire vous aussi, à trouver la manière d'exprimer une vérité, tout en contournant cette vérité, non pas de manière maladroite, mais rusée. Hein, Jésus a dit qu'il faut se ruser comme des serpents et sages comme des colombes. Parce que le problème du péché, quand on l'évoque mal, il soulève le problème de la culpabilité. En effet, nous sommes coupables d'avoir péché. Et c'est tout le problème de Jésus qui est venu pour enlever notre culpabilité. Mais les gens qui connaissent pas Jésus, eux, ils se sentent coupables. Et le péché renvoie cette culpabilité, surtout par le fait que l'Église catholique, d'une manière générale, qui a commencé il y a des milliers d'années, donc près de 2000 ans, est devenue une Église qui a exploité cette notion de péché à ses propres fins pour culpabiliser, même pour faire l'inquisition dans certains cas. Donc ce mot péché renvoie, surtout dans notre culture française qui est très catholicisée dans le passé, eh bien, renvoie cette notion de culpabilité. Les gens se sentent coupables lorsque nous prononçons le mot péché. D'une manière générale d'ailleurs, l'être humain se sent coupable pour construire son identité. Vous savez, quand on vient au monde, hein, on est un bébé, et petit à petit, on construit son identité, et ensuite, après, on la vit en tant qu'adulte. Donc, c'est très, 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 très central, la notion d'identité. Comment on construit notre identité? Eh bien, on le construit sur certains critères, entre autres. Hein. On doit être digne d'une certaine identité pour être ce que nous sommes. Par exemple, mes parents avaient une très forte identité dans le village dans lequel ils étaient. Et donc, il fallait qu'on corresponde à certains critères. Et quand moi, j'étais puni à l'école, je subissais une deuxième punition bien plus forte à la maison. Voilà, quand c'était le bâton, c'était plusieurs coups de bâton à la maison, parce que voilà, je ne correspondais pas aux critères que la famille Hubert devait présenter dans ce village. Vous voyez. Donc l'identité, eh bien, est très très imbriquée avec la culpabilité. On a l'impression d'être un raté. Quand on n'a pas, quand on ne peut pas être le chrétien qu'on devrait être, hein, pour parler de l'identité chrétienne. Et cela entraîne une impression d'être un bon à rien. Et ça, effectivement, ça joue sur notre identité et sur notre morale. Alors que la Bible, en même temps, dans la Bonne Nouvelle, bien sûr, elle nous tient pour des pécheurs, puisqu'elle dit que nous sommes pécheurs et Jésus est venu pour ça. Mais en même temps, elle parle de l'amour. Justement, Dieu est venu gratuitement nous apporter son amour, de Jésus à la croix pour nous sauver. Donc vous voyez, il y a d'un côté l'amour pour notre identité que nous voulons être en Christ, et de l'autre côté la performance à laquelle nous n'accédons pas en tant que chrétiens, parce qu'on nous a suriné qu'il fallait, pour être un bon chrétien, faire ceci, cela, etc. La bonne nouvelle, c'est bien sûr que la grâce nous a rachetés, et c'est ce que Luther a découvert quand il a lu l'Épître aux Romains. Et ce que la Bible nous demande, ce n'est pas d'être un bon chrétien, c'est de demeurer en lui. C'est de demeurer en lui. Et ça, c'est ce qu'on dit dans nos milieux évangéliques, c'est de chercher une relation plutôt qu'une religion qui, elle, demande de correspondre à des canons. Des canons, et si on n'y correspond pas, eh bien, on est sanctionné. Donc le péché, la question du péché, quand on évoque le péché avec quelqu'un, renvoie à une conception du christianisme, en plus, qui a été rejetée, en tout cas en Occident. En Afrique, c'est pas le cas, mais en Occident, que ce soit de ce côté de l'Amérique ou de l'autre côté, il a été rejeté, le christianisme. Moi, quand j'étais jeune, j'étais justement dans ce village, où, enfin, c'était un peu plus qu'un village, puisque le dimanche, on était 1000 personnes au culte, hein, enfin à la messe. Voilà, c'est une grande église. Hein, bon. D'une année sur l'autre, 68, 69, 70, eh bien, il n'y avait plus que 10 ou 12 personnes. Ce n'est pas le confinement. Hein. C'était hop, le vidage complet des églises, du christianisme, parce qu'il n'y avait plus l'obligation de venir dans l'église. Et du coup, les gens en ont profité, hein, et ne sont plus revenus. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Le christianisme a été éradiqué de la société moderne, même... vous avez été consulté, pour ceux qui sont des votants, à voter au référendum pour l'Europe, où on a enlevé, Giscard s'est arrangé pour enlever carrément la notion de christianisme, de l'origine de l'Europe sur le christianisme. Bon, et les Français l'ont refusé. Par contre, quelque part, à Lisbonne, on nous a resservi le texte en enlevant le préambule, parce qu'il y a eu des levées de boucliers. Mais voilà, on ne veut plus du christianisme. En mai 68, moi j'étais à Paris, d'ailleurs Isabelle aussi était à ce moment-là avec son père à Paris. Dans les bouches de métro, c'est marqué « il est interdit d'interdire ». Il est interdit d'interdire. Vous voyez, le péché, c'est, voilà, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Non, c'est interdit. Donc, même le fait de dire quelque chose, c'est interdit. Alors, ne parlons pas du péché. D'où le rejet, d'ailleurs, de l'autorité, qu'elle soit sociale, religieuse, politique, considérée comme non légitime. Elle n'est pas légitime. La seule qui est acceptée, et encore, c'est la nature. La nature, bon, parce que la nature, voilà, j'ai ma nature, voilà. Donc la nature, ben là, on commence à l'adorer d'ailleurs, parce que il faut la respecter, etc. Hein. Dieu non, mais la nature oui. Donc il y a un rejet systématique. D'ailleurs, le général de Gaulle, qui a sauvé la France, enfin sauvé avec les Alliés, hein, mais qui a été reconnu dans la résistance comme étant celui qui a libéré la France, eh bien, en 68, il est parti avec un hélicoptère en Allemagne, et il a dit « c'est la chienlit, c'est la chienlit », alors que lui qui a connu la guerre, il a dit « voilà, la société n'est plus gérable, parce qu'on ne respecte plus rien, plus l'autorité ». Plus l'autorité politique, plus l'autorité sociale, ni plus l'autorité du sacré, hein, de la religion, qui aurait déjà fait son effet à l'heure. Donc même le général a abdiqué. Voyez-vous. C'est pour dire à quel point nous sommes arrivés à une difficulté à accepter la notion du péché. Alors, comment faire ? Alors, il n'y a pas que le péché, hein, il y a d'autres mots qui sont connotés. Hein. Le péché est connoté, culpabilité. La Bible, parole de Dieu, bon, voilà, c'est une parole relative, hein, parole de lieu, il ne faut pas exagérer. La Bible sans erreur, hein, ce qu'on appelle l'inhérence biblique, qui a été déclarée par les évangéliques, ou par la déclaration de Chicago, il y a des erreurs comme dans tout autre livre, etc., c'est pas acceptable. La théologie du royaume, c'est plutôt la théologie du Saint-Esprit maintenant, vous voyez, alors que le royaume, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a énormément de choses qui ont été bousculées, hein. Et tout cela par des idoles. Alors, j'aimerais de manière très concrète vous faire sentir comment on peut changer le discours tout en gardant, tout en maintenant la réalité théologique, la vérité. Il ne s'agit pas d'enlever la vérité, il s'agit de communiquer autrement. Alors, je vais m'appuyer sur un témoignage qui m'a beaucoup parlé. Hein, comme vous, je lis pas mal de témoignages, de choses qui m'inspirent. Et là, il s'agit de Becky. Alors, Becky, c'est une Américaine qui témoigne de la manière dont elle témoigne de sa foi par rapport au péché. Alors, je vous laisse simplement écouter un petit peu son témoignage et je reviendrai sur la conclusion tout à l'heure. Alors, elle dit qu'une amie psychiatre, non chrétienne, m'a un jour décrit les problèmes typiques qui poussent les gens à lui demander de l'aide. Puis, elle s'est arrêtée et m'a dit avec une note de scepticisme, « Ah, tu es chrétienne, donc tu penses que le problème est que nous sommes tous des pécheurs ?» entre guillemets, des transgresseurs. Alors je lui ai demandé comment elle pensait que la Bible définissait le péché. Et avec un sourire ironique, elle a répondu « Oh, probablement comme la drogue, le sexe ou le rock'n'roll. » Alors Becky dit « Mais ça c'est des comportements. » Dans la perspective biblique, le péché n'est pas seulement des mauvais comportement, des mauvaises actions. Le mauvais comportement est le résultat du péché et non la cause. Ok, dit-elle, je vais mordre, hein. Mais quelle est la cause profonde du péché alors? C'est un psychiatre, hein. Ils aiment bien savoir la cause profonde. Alors elle a posé exactement la bonne question. En effet, notre défi de comment discuter du péché dans une culture postmoderne, donc il n'y croit pas, comment faire? Pourquoi la mauvaise nouvelle du péché est une bonne chose pour les gens? Et oui, c'est un paradoxe. Hein, parler du péché, c'est une bonne chose, mais en fait, c'est une mauvaise pour ceux qui la reçoivent, parce que la notion de péché les renvoie à la culpabilité, à toutes sortes de choses qu'ils rejettent. Alors la Bible décrit le péché comme étant à la fois une incrédulité de rébellion, donc un refus de la parole de Dieu, d'obéir à la parole, et une idolâtrie. Et dans la culture actuelle, donc dit Becky, j'ai constaté que le concept d'idolâtrie, c'est-à-dire utiliser des substituts de Dieu, hein, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu, voilà, tout ça c'est des substituts, hein, mais ça peut devenir des idoles, pour donner un sens à notre vie au lieu de Dieu, est souvent plus facile à décrire au départ, de saisir au départ de nos interlocuteurs. Alors au moment opportun, nous devons expliquer bien sûr les deux aspects du péché. Quand il s'agit d'accepter Jésus, il faut bien expliquer qu'il est mort pour nos péchés à la croix. Mais on va regarder ensemble comment l'idolâtrie, la présentation de l'idolâtrie peut être profondément pertinente pour les non-croyants. Alors voilà ce que dit Becky. Tout en vivant aux États-Unis, dit-elle, je suis souvent allée dans un salon de coiffure à Londres, où le coiffeur qui s'occupe de moi se nomme Théo. Voilà, comme le fils de Théo. Comme la confiance croissait entre nous, Théo m'a dit qu'il était gay. Il m'a parlé de sa vie et moi j'ai partagé ma foi avec lui. Tout en respectant ma foi, il n'était pas sûr que Dieu existe. Un jour, je suis arrivé au salon de coiffure et quand j'ai salué Théo, je me suis rendu compte qu'il était très déprimé. Alors, en m'asseyant sur la chaise, j'ai mis ma main sur son bras et je dis « Théo, tu vas me dire ce qui ne va pas. » Il m'a dit, « Mais Becky, tu es la seule cliente de la journée qui m'a remarqué que je suis déprimée. » Il a poursuivi, « J'ai un partenaire depuis plusieurs années, et pour être honnête, je le chérissais, je le vénérais. Mais la semaine dernière, il a déménagé, il m'a quitté et je suis absolument dévastée. Alors, puisque tu es chrétienne, vas-tu me dire que notre relation était condamnée parce que je suis un homosexuel ?» Alors, j'ai profondément inspiré. Question délicate, réponse délicate. « Oh Théo, je suis tellement triste de te voir souffrir autant. En fait, je pense que le problème que tu rencontres est plus profond que l'identité sexuelle. J'ai une amie hétérosexuelle, Anna, qui vient de mener exactement la même chose. Elle a rencontré l'amour de sa vie. Elle était certaine que leur amour les guérirait tous les deux. Mais il l'a récemment quittée pour une autre femme et elle est maintenant cliniquement déprimée. Pourtant, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez tous les deux dit que vous adoriez vos partenaires, ce qui est très révélateur. Pourquoi est-ce pertinent, dit Théo. Alors Becky lui dit, parce que nous avons été créés pour aimer et adorer Dieu. Nous avons une nature d'adorateur. Là où nous rencontrons des difficultés, c'est lorsque nous essayons d'adorer autre chose que Dieu. Lorsque nous mettons quelque chose d'autre à la place de Dieu. Ce peut être une bonne ou une mauvaise chose, mais les substituts de Dieu nous feront toujours défaut parce qu'ils ne sont pas assez grands pour construire notre vie sur eux. Alors Théo, il a dit, c'est exactement ce que mon partenaire me disait. Il disait que j'essayais de faire de lui mon tout. Il m'a même dit que je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas répondre à tous tes besoins et franchement, c'est épuisant. Et il est parti. Alors j'ai répondu, bah oui, c'est pourquoi l'adoration des substituts de Dieu sont considérés comme des péchés dans la Bible. Parce que nous exigeons qu'il nous donne ce que Dieu seul peut nous donner, c'est-à-dire une identité, un but, une finalité dans notre vie, être totalement compris et parfaitement aimé. La Bible a même un mot pour ces substituts de Dieu, ça s'appelle l'idolâtrie. Alors Théo m'a regardé avec étonnement et m'a dit « Alors, tu me dis que selon la Bible, ma souffrance est en réalité due au fait que j'ai adoré la mauvaise chose. » Exactement, exactement. Et Théo, tu n'es pas seul. Nous avons tous, moi y compris, utilisé des substituts de Dieu. Nous sommes tous détournés de Dieu et nous avons essayé de diriger notre propre vie comme si nous étions les responsables de notre vie. C'est la raison principale de toutes les ruptures autour de nous et en nous. Alors j'ai continué. J'ai dit, nous avons été créés pour une relation avec Dieu, pour vivre avec lui comme centre de nos vies. C'est pourquoi le message chrétien est appelé bonne nouvelle. Parce que Dieu nous aime et nous cherche depuis bien plus longtemps que nous le pensons. Mais nous devons aussi nous approprier la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que nous avons choisi quelque chose d'autre à sa place. Alors Théo, il se reprend et dit, ce qui me fait peur, c'est que ce que tu dis a tellement de sens. Pour trouver l'amour que j'ai cherché toute ma vie, je dois d'abord régler ma relation avec Dieu. Mais je ne pourrai pas venir à Dieu, Becky, après toutes les choses que j'ai faites. Alors, je lui ai répondu, Théo, la seule raison pour laquelle chacun de nous peut venir à Dieu, c'est parce que Dieu nous aime. Jésus est venu du ciel et il est mort sur la croix pour notre péché, parce que tout le monde a besoin du pardon de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter un tel don, si ce n'est de remercier Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous. Lui dire que nous sommes désolés pour notre péché. Désolés pour notre rébellion, désolés pour nos idoles. Et l'inviter à venir dans notre vie en tant que Seigneur. La seule raison pour laquelle chacun de nous peut venir à Dieu, c'est parce qu'il nous aime. Alors à ma surprise, Théo, il a dit, mais Becky, du fond du cœur, merci de parler franchement sans me faire me sentir jugé. Merci de dire que tu as aussi essayé les substituts de Dieu. Merci de me dire que Dieu m'aime et veut une relation avec moi alors que je me sens si inutile. Tu m'as donné quelques livres et une Bible, je pense qu'il est temps que je commence à les lire. Voilà le retournement de la situation. Alors en conclusion, pourquoi ai-je orienté ma conversation avec Théo de cette façon? Eh bien parce que le problème le plus profond de Théo était qu'il ne comprenait pas d'où venait le véritable épanouissement humain. Comment l'homme pouvait s'épanouir? Je crois que la Bible est claire sur le plan, sur le dessein de Dieu pour la sexualité humaine. Mais le problème de Théo était qu'il avait fait de l'amour humain une idole. S'il avait été dans une relation hétérosexuelle, l'idole aurait été la même. Anna et Théo souffraient parce qu'ils étaient tous deux trompés sur la même question. Ce qui nous rend vraiment humains et complets, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse nous définir qui nous sommes, notre être profond. Dans notre relation avec lui, nous trouvons notre véritable identité et nous recevons ce dont nous avons le plus besoin, c'est-à-dire le pardon, la réconciliation avec lui, notre identité, le projet de Dieu pour nos vies et l'amour qui ne nous délaissera jamais. Dans notre relation avec Dieu, nous trouvons notre véritable identité et nous recevons ce dont nous avons le plus besoin. Le pardon, la réconciliation, l'identité, le projet pour nos vies. Alors lorsque les gens, voyez-vous, ressentent notre compassion, notre amour pour eux, et qu'ils voient que nous nous identifions nous-mêmes comme des pécheurs et que nous ne les regardons pas de haut, cela leur permet de nous entendre. Car ils n'ont pas l'impression que nous sommes au-dessus d'eux dans une attitude de jugement. Nous devons suivre l'exemple de Christ et aller au cœur de ce qui nous sépare de Dieu, montrant que ce qu'il désire par-dessus tout, c'est ce que le Christ il offre, c'est son amour. Nous le voyons, le Christ, quand il était sur la terre avec la Samaritaine, péché sexuel, avec la prostituée, avec Zachée pour l'argent, etc. Vous voyez, il ne prenait pas les gens de haut, il ne les condamnait pas. Mais il cherchait à avoir leur écoute, à ce qu'ils entendent le message de ce que Jésus a porté, à savoir qu'il est venu pour nous aimer et de porter notre culpabilité, notre péché à la croix. La merveilleuse nouvelle de l'Évangile est que notre péché et le juste jugement de Dieu sur le péché n'ont pas le dernier mot. Les choses mêmes auxquelles nous aspirons ont été rendues possibles par le Dieu qui nous a envoyé Jésus pour nous sauver, même lorsque nous étions plongés dans le péché, comme le dit Romains que nous avons lu au verset 8. Christ est mort pour nos péchés, nous qui étions rebelles. Il nous a offert son amour et offrons-le à notre tour, à ceux qui nous entourent. Non pas en les assommant avec la Bible, en les assommant avec des termes qui sont désuets et qui ne renvoient pas à des choses qu'ils peuvent recevoir, Mais faisons-le dans l'amour de cette réconciliation que nous avons pu connaître avec Dieu et que nous voulons partager avec eux, afin qu'ils puissent s'ouvrir comme une fleur s'ouvre au soleil, et bien que leur cœur s'ouvre à la grâce. J'aimerais prier pour que le Seigneur nous donne cette sagesse. Je sais que vous l'avez déjà, mais on n'en a jamais assez de trop. Assez de trop. Parce que nous avons tellement tendance tout de suite à juger. Nous sommes poussés à ce jugement. Rappelez-vous, Jésus qui parlait de cette parabole, de celui qui a reçu la grâce pour toutes ses dettes, et puis dès qu'il sort, il saisit son créancier à la gorge et le jette en prison pour trois fois rien. Voyez-vous, c'est la tendance naturelle. Et le Seigneur a besoin de nous toucher afin que cette tendance naturelle au jugement ne ressorte pas dans notre témoignage, où les gens sont tellement blessés, tellement abîmés par 2000 ans de christianisme qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'il doit être, que nous devons user encore plus de prévenance, plus d'amour, plus de compassion. Mais le Seigneur nous donne cette grâce, amen, si nous la lui demandons. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour que tu nous donnes ta grâce, afin que dans ces temps, Seigneur, où les gens sont à vif, et Seigneur, porte cette mémoire du passé, Seigneur, où le message de l'évangile a été mélangé et même tordu. Et bien, Seigneur, que nous puissions user de prévenance et de grâce envers eux. Seigneur, non pas nous taire sur la vérité, mais attendre le moment où, étant ouvert à la recevoir, comme c'était le cas de Théo, de lui-même, il va se mettre à lire, se mettre à chercher, se mettre à ton écoute, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de ne pas chercher l'efficacité dans le témoignage, dans le nombre de gens que nous allons toucher, mais dans la qualité de notre témoignage. Seigneur, donne-nous cette grâce et nous croyons qu'elle est tellement plus efficace parce qu'elle amène vraiment les gens à l'évangile, à la bonne nouvelle et à la nouvelle naissance. Seigneur, accorde-nous cette grâce, nous te prions, que tous ceux à qui nous avons parlé, nous puissions les revoir aussi dans cette perspective pour les aimer et qu'ils se sentent aimés et aimés par Dieu. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.